Vatican News, le journal. Il est 13h.
Monseigneur Dubost nommé administrateur apostolique du diocèse de Lyon, le pape François a chargé l'ancien évêque d'Évry-Corbeil-Essonne de guider le diocèse marqué par le retrait du cardinal Barbarin. On y revient juste après les titres. En Turquie, le parti du président Erdogan perd le contrôle d'Istanbul. L'opposition a remporté hier le deuxième scrutin municipal. Ekrem İmamoğlu totalise 800 000 voix de plus que son adversaire de l'AKP. Des dizaines de milliers de personnes réunies à Prague pour réclamer la démission du président du gouvernement, du jamais vu depuis la révolution de velours il y a 30 ans. Éclairage dans quelques instants. Et puis nous reviendrons sur l'appel des évêques ivoiriens alors que le pays se prépare à des élections 2020. Ils exhortent à prendre soin de la paix sociale et invitent au dialogue.
Le journal Hélène Détombe.
Bonjour, avant de développer l'ensemble de l'actualité internationale, retour sur cette nomination à Lyon. Monseigneur Michel Dubost a été nommé ce lundi par le pape François, administrateur apostolique du diocèse. L'ancien évêque d'Évry-Corbeil-Essonne et ancien évêque aux armées vient donc prendre en main un diocèse marqué par le retrait du cardinal Barbarin, dont le procès en appel se tiendra à la fin de l'année, Olivier Bonnel.
Oui Hélène, le pape a nommé un évêque d'expérience pour administrer le diocèse de Lyon, fragilisé par le procès du cardinal Barbarin, évêque aux armées de 1989 à 2000, puis à la tête du diocèse d'Évry-Corbeil-Essonne pendant 17 ans. Monseigneur Dubost est depuis l'an dernier le directeur des œuvres pontificales missionnaires pour la France, dont le siège est à Lyon. Il vient donc en voisin. Monseigneur Dubost succède au père Yves Baumgarten, vicaire général modérateur du diocèse, à qui le cardinal Barbarin avait confié en mars dernier la charge d'administrer le diocèse durant sa période de mise en retrait. Rappelons-le, le primat des Gaules était venu à Rome présenter sa démission au pape François, une démission refusée par le Saint-Père tant que la procédure civile le visant n'était pas close. Le cardinal Barbarin avait alors décidé de se retirer de ses charges de gouvernance au sein du diocèse. Le directeur de la salle de presse du Saint-Siège, Alessandro Gisotti, précise ce matin que cette nomination de Mgr Dubost n'implique pas la renonciation du cardinal Barbarin à sa charge d'archevêque, mais qu'il est appelé à collaborer à l'accomplissement complet, libre et serein du mandat de l'administrateur apostolique. Interrogé par nos confrères du journal La Croix, Hélène, l'évêque auxiliaire de Lyon, Mgr Gobillard, a pour sa part expliqué que ce choix était celui d'un homme de grande expérience extérieure au diocèse, disponible en pleine forme physique et celle d'un manager.
Merci beaucoup Olivier Bonnel. Toutes ces précisions sont à retrouver à l'adresse vaticannews.va. Lendemain d'élections à Istanbul et cette victoire de l'opposition qui conforte les résultats du premier vote de mars, invalidé par la commission électorale. Ekrem İmamoğlu a remporté le scrutin avec 800 000 voix de plus que son adversaire de l'AKP, l'ancien premier ministre Binali Yildirim. Un cinglant revers pour le président Recep Tayyip Erdogan. Les précisions de Marion Fontenille.
700 000 voix d'écart, cette fois la victoire est sans appel. Binali Yildirim, le candidat du parti au pouvoir, a même félicité le vainqueur avant l'annonce officielle des résultats, suivi dans la foulée par le président Recep Tayyip Erdogan. Une première dans le pays, l'opposition reprend donc la main sur Istanbul après 25 ans et après l'annulation des premières élections municipales en mars dernier. Ekrem İmamoğlu n'avait alors testé sa nouvelle position que 18 jours, il aura désormais 4 ans. Cette élection signifie l'ouverture d'une nouvelle page, elle marque un nouveau début. Cette élection signifie aussi une fin, celle du règne de l'AKP sur la ville. Et comme le dit l'adage, qui contrôle Istanbul contrôle la Turquie. C'est donc un revers politique sanglant pour le président Erdogan et son parti. « Je suis prêt à travailler en harmonie avec vous », lui a lancé le nouveau maire stambouliote. Saisira-t-il cette main tendue ? Quoi qu'il en soit, hier soir, les rues d'Istanbul étaient en fête. Des centaines de citoyens sont sortis pour danser, chanter et applaudir cette victoire. Ce nouveau souffle qu'ils attendaient depuis de longues semaines. « Ekrem, président », clamait-il, comme un avertissement pour l'avenir. Car en accédant à la mairie d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu fait désormais son entrée dans l'échiquier politique turc. À Istanbul, Marion Fontenille pour Vatican News.
16 représentants de la société civile turque devant la justice turque ce lundi. Ils sont accusés d'avoir tenté de renverser le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan lors d'un vaste mouvement de contestation en 2013 et risquent la prison à vie. De nombreux défenseurs des droits de l'homme dénoncent une chasse aux sorcières. La première audience de ce procès a lieu dans la prison de Silivri, près d'Istanbul. En Géorgie, le chef du parti au pouvoir annonce une réforme électorale. Nous proposons que les élections législatives de 2020 soient organisées au scrutin proportionnel, a déclaré ce matin Bidzina Ivatchvili. Il répond ainsi à la demande des manifestants. Des milliers de Géorgiens manifestent quotidiennement depuis jeudi dernier dans la capitale, Tbilissi. À l'origine des rassemblements, l'intervention très controversée d'un député russe devant le Parlement géorgien. C'est le mouvement de contestation le plus important en République tchèque de ces 30 dernières années. Plus de 250 000 personnes ont manifesté hier à Prague, la capitale, pour réclamer la démission du Premier ministre. Le milliardaire Andrej Babiš est soupçonné de conflits d'intérêts et de détournement de subventions européennes. On fait le point avec Guillaume Narguet.
Aussi massive soit-elle, il est toutefois peu probable que cette mobilisation entraîne la chute d'Andrei Babiš, Premier ministre depuis un an et demi et insensible à toute forme d'opposition. Les Tchèques affichent pourtant leur ras-le-bol dans la rue depuis maintenant près de deux mois. Début juin, quelques 120 000 personnes avaient ainsi déjà répondu à l'appel. Mise en cause dans deux projets de rapport d'audit de la Commission européenne qui lui reproche d'être en situation de conflit d'intérêts, Andrei Babiš, ancien homme d'affaires à la tête d'un empire industriel, est soupçonné de fraude aux subventions européennes. Il fait aussi l'objet de poursuites en République tchèque pour une autre affaire de détournement. Entré en politique en 2012, Andrei Babiš est resté le propriétaire du groupe Agrofert qui lui a permis de faire fortune jusqu'en 2017. Bien qu'il se soit alors séparé de ses actifs, les manifestants sont convaincus que le Premier ministre reste le principal bénéficiaire des subventions. Andrei Babiš rejette toutes ces accusations et n'envisage pas de démissionner, fort aussi toujours du soutien d'une autre importante partie, silencieuse elle, de la population tchèque, comme en témoigne la récente victoire de son mouvement populiste ANO aux élections européennes. À Prague, pour Vatican News, Guillaume Narguet.
Aucune accalmie dans la crise qui oppose l'Iran aux États-Unis. Le gouvernement américain dit avoir lancé une cyberattaque sur des infrastructures militaires iraniennes. Téhéran déclare ce matin n'avoir subi aucun dégât. L'Iran sera aujourd'hui au cœur de discussions à Jeddah entre le secrétaire d'État américain Mike Pompeo et les dirigeants saoudiens, alors que les États-Unis s'apprêteraient à annoncer de nouvelles sanctions majeures contre Téhéran, des sanctions que le Kremlin a d'ores et déjà jugées illégales. Donald Trump se rendra le week-end prochain en Corée du Sud après le sommet du G20. Le président américain aura des entretiens avec son homologue sud-coréen Moon Jae-in portant sur les négociations sur le nucléaire avec Pyongyang, actuellement dans l'impasse. L'annonce a été faite ce matin par Séoul. Kim Jong-un a reçu la semaine dernière Xi Jinping, premier président chinois, à se rendre à Pyongyang depuis 14 ans. Évitons la guerre, c'est le cœur du message des évêques de Côte d'Ivoire à l'issue de leur assemblée plénière. Alors que des élections générales sont prévues pour octobre 2020, les évêques exhortent à prendre soin de la paix sociale, à continuer le processus de désarmement et surtout ils invitent au dialogue. L'Église peut jouer un rôle de médiateur, c'est ce que souligne Mgr Ignace Bessy, président de la Conférence épiscopale de Côte d'Ivoire.
L'Église, qui a en son sein, j'allais dire, la réconciliation sacramentelle, peut donner son appui, pourvu qu'on soit prêt à l'accepter en tant que tel. En ce moment-là, le médiateur Église, certainement avec d'autres, pourrait aider le pays à vraiment prendre résolument le chemin de la réconciliation en écoutant les uns les autres et en allant dans le sens de la vérité. Et plusieurs fois dans cette lettre, les évêques sont revenus sur ce refrain « Évitez-nous la guerre, évitons-nous la guerre par un dialogue ». C'est vrai, on peut avoir des opinions divergentes, mais on n'est pas obligé de se tirer dessus parce qu'on ne pense pas la même chose. Nous avons tous intérêt à ce que le feu ne brûle pas en Côte d'Ivoire, donc que chacun se détache de ses intérêts particuliers et pense au bien commun.
Mgr Ignace Bessy, président de la Conférence épiscopale de Côte d'Ivoire, interrogé par Marine Henriot. Situation extrêmement confuse en Éthiopie alors que les drapeaux sont en berne. Le procureur général de l'Amara a succombé à ses blessures. Il avait été victime d'une attaque où ont été également tués le président de la région et l'un de ses conseillers. À Addis Abeba, c'est le chef d'état-major de l'armée nationale qui a été assassiné. Le gouvernement a dénoncé une tentative de coup d'état. C'est la fin de cette édition. On se retrouve à 18h. Je vous souhaite une très belle après-midi. Au revoir.